Aujourd'hui, à rencontre, un ex-professeur agrégé de l'Université de Moscou, Issa Panine. Issa Panine a été membre du Parti communiste. Elle a fréquenté les meilleures écoles du RSS, où elle a été la camarade de la fille de Staline. Elle devint professeure de linguistique à l'Université de Moscou. Issa Panine est l'épouse de Dimitri Panine, qui a été le compagnon de détention de Solzhenitsyn. Celui-ci s'inspira de Dimitri Panine pour créer le personnage de Sologdine dans son roman Le Premier Cercle. Ayant rejeté le marxisme, Issa Panine a choisi de s'exiler hors du RSS. Avec son mari, elle participe à la lutte contre la philosophie des dirigeants soviétiques.
Issa Panine, vous avez été pendant un certain nombre d'années membre du Parti communiste soviétique. Pourquoi ?
À l'âge de 19 ans, c'était le temps de la guerre en Union soviétique. Et moi, comme beaucoup de mes camarades, de mes amis, j'étais étudiante et je suis allée au front, ce qu'on appelait à l'époque, pour se battre contre les Allemands. Et là, je suis adhérée, entrée dans le parti, avant le combat de la guerre. Et après, de notre parti, on ne peut jamais sortir. Je n'étais qu'exclue du parti quand je déposais ma demande d'aller en Occident. Parce qu'on ne sort pas déjà du parti quand on est entré. C'est pas possible, comme ici, de déposer la demande et de dire que je ne suis pas membre du parti. Alors, c'est automatiquement, ça dure toute la vie, même si vous avez des pensées complètement autres.
À 19 ans, donc, vous devenez membre du parti communiste soviétique.
Oui, oui.
Vous étiez convaincue?
Non, pas tout à fait, si vous voulez. Je n'étais pas membre du parti parce que j'ai déposé, il y a un stage encore.
Oui.
On doit être d'abord un candidat. Alors, c'était en 41 que j'ai déposé cette... J'appartenais encore à la jeunesse communiste, si vous voulez, au Komsomol. Alors, c'est automatiquement, ça devient... J'ai devenu candidat après... Parce que j'ai déposé cette demande pendant la guerre, quand j'étais au front, je répète. Et puis, en 45 déjà, je suis devenue membre
oui.
du parti.
Mais ce que je veux savoir,
C'était complètement sincère, parce que je pensais que quand le pays doit être mobilisé, il doit être autour de son parti, et il doit... tenir tête aux Allemands avec le parti dirigeant qui était à l'époque.
Mais est-ce que vous croyez à ce moment-là aux principes et aux idéaux du parti soviétique?
Si vous voulez, j'étais, comme écrit d'ailleurs mon mari, j'étais élevée par ma mère, comme il l'appelle, idéaliste, qui jamais ne contredisait pas le régime. Et déjà à l'époque de 16 ans, de 15 ans, quand j'ai commencé beaucoup à lire, quand je lisais les écrivains russes, disons Dostoïevski et les autres, alors je me posais beaucoup de questions, comme toute ma génération. Mais je n'étais pas encore en contradiction avec le régime.
Et vous l'êtes devenu?
Complètement.
Pourquoi?
Parce que j'ai compris que toutes les idées que j'ai entendues de mon enfance, elles étaient complètement fausses. Tout ce que j'ai appris de mon enfance à propos, à commencer des purges staliniennes et de l'époque de la Grande Terreur, quand j'ai été encore élevée et quand je comprenais qu'il n'y a que des espions de pays occidentaux qui viennent pour détruire notre pays, et c'est tout va mal chez nous parce que c'est l'entourage occidental qui fait tout ça, que tous les membres du parti ancien qui ont fait la révolution, que c'était des espions, que c'est pourquoi ils sont maintenant dans les prisons et dans les camps. Alors quand j'ai appris tout ça, quand j'étais encore enfant, alors je croyais à tout ce qui était écrit dans le Pravda. dans le journal officiel.
Oui.
Et puis, quand j'ai commencé un peu à penser, à réfléchir, alors j'ai compris qu'il y a quelque chose de faux, il y a quelque chose qui ne tient pas. Il y a pas seulement ces membres du parti, il y a des ouvriers, des paysans. Dans notre école, par exemple, où j'étais, il y avait presque 70% des élèves dont les parents étaient arrêtés. C'était pas mon cas, mais tous mes amis avaient des parents qui étaient arrêtés comme ça.
Et vous le
un
saviez,
jour,
vous le saviez.
Ah oui,
vous
bien sûr, on sait si une fille ou un garçon viennent à l'école et disent que mon père était arrêté la nuit. Comment on peut ne pas se voir? Tout le monde était arrêté. Alors on a pensé que quelque chose ne marche pas. Soudain, tout était bien et tout le monde ne peut pas être ennemi de ce régime. Alors il y a peut-être une personne qui fait ça, qui fausse la situation, oui, qui explique autrement les choses.
Alors
on commence à penser, on voit beaucoup de choses après.
Mais alors comment expliquez-vous, n'est-ce pas, que après 75 ans d'existence, ce régime tienne encore, puisque vous dites que simplement vous, dans votre milieu, vous avez eu 70%.
Ah, ça, je peux vous très bien expliquer, parce que si j'étais encore idéaliste, et si ma génération était idéaliste, et tous mes camarades, et tous mes amis, et tous les étudiants sont allés dans les bataillons communistes, ça s'appelait à l'époque, pour vraiment tenir tête aux Allemands, vous ne les trouverez pas maintenant, dans la génération qui est. Après la guerre, après la génération qui est arrivée après la guerre, elle ne croit pas dans les idéaux de la révolution comme nous le croyons à l'époque. Et pourquoi, je réponds maintenant à votre question, pourquoi si personne ne croit, pourquoi ce régime tient? Parce que ce régime tient seulement par un moyen, par une machine de terreur qui travaillent toujours. Il y a une proportion, si vous voulez. C'est pour la population adulte, c'est sur 4 personnes, il y a sur 4 opprimés, si vous voulez, il y a un oppresseur. C'est une proportion colossale. Toute cette société est mouchardée complètement. Je ne pouvais pas, même dans mon appartement, parler d'une manière libre. Je savais toujours, on connaît peut-être ces mouchards, mais pas tous, ces informateurs. On travaille à l'institut, dans le bureau, à l'université, parce que moi j'étais professeur à l'université de Moscou. On sait toujours qu'on est mouchardé partout, que toute votre parole va être connue après. Et c'est à cause de ces moyens, quand on peut, avec la terreur, complètement détruire le sens, disons, de la liberté qui reste dans vous, mais vous n'avez pas ces possibilités, cette société tient.
Donc cette société ne tient que par la terreur.
Que par la terreur, parce qu'il y a une résistance colossale, il y a une résistance.
Une résistance chez les intellectuels.
Non. Les intellectuels, c'est juste le contraire. C'est la résistance la moindre. Parce que les intellectuels appartiennent à la classe privilégiée. Alors les intellectuels, juste au contraire, les académiciens, les ingénieurs, disons, qui ont déjà des postes plus élevés, les professeurs, ce sont des classes, c'est une classe déjà privilégiée.
Et vous avez appartenu à cette classe-là?
Oui, j'ai appartenu à cette classe parce que j'étais professeur aussi, j'étais professeur et agrégé, alors j'ai appartenu bien sûr à cette classe. Alors cette couche, elle ne veut pas perdre sa situation. Alors, elle est complètement, elle veut avoir ce poste qui lui donne des privilèges, de petits peut-être, ou de grands privilèges. Il y a une maison de repos où on peut aller, il y a une alimentation, enfin, il y a peut-être des magasins, c'est pas mon cas, mais enfin, les autres aussi, où on peut avoir des aliments qui sont meilleurs, où on peut trouver quelque chose, alors tout le monde se tient. Alors, c'est pas des intellectuels, il ne faut jamais parler des intellectuels quand on parle de la résistance. Dans les couches intellectuelles, la résistance est la moindre. Ce sont ceux qui est connu sous le nom des dissidents. Les uns qui sont en Occident, les autres qui sont restés. Il y a des gens qui sont très très braves là-bas. Il y a par exemple une femme dont le nom est Tatiana Velikanova, qui est maintenant en prison et qui a eu conduite, une attitude la plus courageuse devant ses juges, qui est croyante, qui a vraiment dit toujours la vérité, qui a sauvé. Il y en a des gens qui sont en Union soviétique et qui luttent pour la liberté. Mais c'est une toute petite couche.
Chez les intellectuels.
Couche très mince. Chez les intellectuels.
Mais d'après vous, mais dans
d'après
le peuple...
moi, il y a une résistance chez les ouvriers, il y a une résistance chez les paysans qui se passe à tout un autre niveau, au niveau du travail.
Parlez-nous de cette résistance-là.
Les paysans, les ouvriers ne veulent pas travailler normalement pour ce régime. Ils n'ont aucun intérêt. Si les paysans, ou ce qu'on appelle chez nous les kolkhoziens, s'ils travaillent, c'est pour leur petit lopin qu'ils ont. Et ce petit lopin, il peut nourrir notre pays. Ce qui est produit par le kolkhoz, c'est dans un état désastreux. Désastreux vraiment. Il y a, je ne sais pas, le pomme de terre qui est sur les champs kolkhoziens, qui se vend après, qu'on ramasse sur les champs kolkhoziens et qu'on vend après dans le magasin, ce sont des pommes de terre pourries qu'on ne va pas comme ça acheter, même si le prix est le plus bas. Les mêmes pommes de terre, le paysan le conserve très bien si ça appartient à eux, parce que c'est normal dans la nature. Il veut travailler, mais il veut que ça appartient à lui. On ne veut pas travailler pour un État qui a pris toutes les possibilités et qui nourrit après très bien les couches privilégiées.
Oui, mais ça, vous me parlez des paysans qui sont en général des gens plutôt conservateurs, n'est-ce pas, plutôt...
Mais pourquoi conservateurs? Oui. Moi, je ne comprends pas tellement ce terme. C'est tout à fait normal pour un paysan qu'il peut nourrir sa famille, qu'il peut avoir les mêmes droits que les autres. Parce que je ne sais pas si vous personnellement ou vos concitoyens connaissent que tous les paysans en Union soviétique, tous les kolkhoziens, étaient privés jusqu'au dernier temps du passeport, c'est-à-dire des papiers. Ils ne pouvaient pas quitter leur kolkhoz et aller dans une autre ville. Ou dans un autre pays même, parce qu'ils n'avaient pas de papier. Ils étaient attachés à ce kolkhoz. C'est pas normal, c'est pas des esclaves.
Un peu comme des serfs, oui.
C'était pas la peine d'abolir le droit des serfs, d'ailleurs très tard, en Russie, pour revenir à la même situation, pour que le kolkhoz ont les serfs qui travaillent pour eux. Ça, tout le monde comprend, parce que c'est dans l'esprit d'une personne humaine d'être libre. Pourquoi je dois vivre, voilà par exemple ici en Occident, je franchis presque toutes les frontières. Il y a des cas quand on ne me demande pas même de papiers si je vais à Bruxelles ou en Suisse, on ne peut pas avoir ni visa ni rien. Alors pourquoi en Union soviétique je suis bloquée? Pourquoi je ne peux pas même aller d'une ville à l'autre? C'est pas normal. Alors vous avez toujours cette résistance, c'est pas parce qu'il y a l'esprit conservateur comme vous avez dit. Avec les ouvriers, c'est la même chose. Est-ce que vous pensez vraiment que les ouvriers russes ne sont pas capables de faire des trucs, de faire des engins, de faire de... J'ai mal employé le mot. De faire des machines.
Mais ils en font, c'est, vous avez été, les Russes ont été les premiers à conquérir l'espace.
Non, attendez. Avec l'espace, voilà, justement, je vais expliquer les choses. Les ouvriers russes sont capables à faire beaucoup de choses. Il y a un récit d'un écrivain russe, Leskov. Leskov, c'est un écrivain du 19e siècle, un très bon écrivain d'ailleurs, qui a écrit comment un artisan russe a pu faire de petits souliers à une puce. Voilà. Et ça, c'est vrai. On peut tout faire si on veut travailler. Il n'y a que deux... deux régions, non pas régions, je ne sais pas comment trouver le mot, dans l'industrie.
Deux secteurs.
Il y a deux secteurs seulement qui marchent. C'est le secteur militaire, même un secteur si vous voulez. C'est le secteur militaire parce que l'espace, ça entre aussi dans ce secteur militaire. Voilà. Et là, ça marche très bien parce que chaque ouvrier a un contrôleur.
Pour chaque ouvrier.
Pour chaque ouvrier dans le secteur militaire. Alors, on peut très bien contrôler toutes les choses qui sont faites. Dans les autres, c'est pas comme ça. Et un ingénieur peut vous dire, c'est l'exemple toujours qui donne mon mari comme ingénieur, que si vous faites une machine, c'est pas la peine de faire dans 1000 opérations, 1000 mauvaises opérations. Il ne suffit que de faire une ou deux opérations qui sont mauvaises, que la machine ne marche pas et qu'il faut l'acheter après en Occident.
Vous venez de parler de votre mari, Dimitri Panine. Est-ce qu'il a eu une influence dans votre évolution?
Oui, certainement. Et une influence très grande, parce que moi, je partage complètement toutes ces idées.
Et c'est à cause de lui que vous avez évolué?
Non. Quand j'ai rencontré mon mari, j'étais complètement dans ses idées. Du point, il ne m'a pas converti.
Il
ne m'a pas converti parce que mes idées, à l'âge de... quand j'ai rencontré beaucoup, beaucoup avant, alors, même avant la fin de la guerre, c'est-à-dire même avant 1945, j'avais déjà des idées complètement claires pour mon pays.
Est-ce que vous pensez que la situation est réformable en Union soviétique?
Non, je pense qu'on ne peut pas réformer ce régime, que ce régime ne peut pas évoluer, qu'on ne peut pas dire que si on va, on n'applique pas tout de suite la Constitution, si on va l'appliquer, la Constitution soviétique, ou comme elle s'appelait, la Constitution stalinienne, alors tout va changer. Mais ce régime ne va jamais appliquer cette Constitution, parce que tout ce qui est inscrit, écrit dans cette Constitution, ce sont des paroles. Ce sont des paroles, on dit que tout le monde a le droit au repos. Tout le monde a le droit à la vieillesse, une bonne vieillesse bien sûr. Tout le monde a le droit à la liberté. Mais ce ne dit rien d'écrire ces choses. On peut écrire ces choses en volume. Parce que premièrement, il faut comprendre ce que c'est que la liberté. Et puis, si on parle de la liberté, alors ce n'est pas dans un régime totalitaire qu'on peut le faire. Alors ce régime, comme tous les régimes totalitaires, ça c'est mon point de vue complètement profond, doivent disparaître de la surface de la Terre.
Mais alors comment les faire disparaître? Comment les changer?
Moi je pense qu'il y a une chose essentielle de laquelle parle beaucoup mon mari, qu'il faut faire la révolution des esprits. Ou mieux dire, la révolution dans des esprits. Ça, c'est la chose la plus facile, facile et difficile, si vous voulez, et la plus compréhensible. Il faut un peu changer les têtes. Il faut faire, par la radio, par le moyen de la radio, la révolution dans les esprits. Je vous donne l'exemple. Tout de suite, le dernier temps, c'est quelques jours, on parle d'une radiostation qu'on veut organiser à Afghanistan. C'est justement l'initiative de quelques écrivains français et aussi quelques dissidents comme Bukowski prennent part dans l'organisation de cette station de la radio. Je salue cette initiative parce que c'est très bien donner dans les têtes des soldats russes les autres idées. Mais c'est depuis que mon mari en Occident, il ne prêche que ça, il ne parle que ça, qu'il faut donner une radiostation à partir de l'Occident, qui va travailler pour l'Occident, pour l'Union soviétique, je m'excuse, qui va expliquer, mais de bonnes stations, c'est pas les stations américaines, c'est pas les stations Liberty qui est sous les ordres, disons, des Américains. Il y a beaucoup de tabous qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas nommer telle et telle chose. Il faut avoir une station libre.
Vous voyez qu'il y a une certaine complicité donc des États occidentaux à l'égard de l'Union soviétique?
Non, je ne pense pas que c'est la complicité, je pense que c'est la peur peut-être.
On a
plutôt
peur.
La peur, oui, on a peur, on pense que c'est un État qui est très fort, qui peut détruire tout, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un État fort, si vous voulez, parce que tout est détruit en Union soviétique. L'économie est détruite, la conscience des gens est détruite. Vous ne pensez un moment que dès l'enfance, vous entendez toujours que Dieu n'existe pas. Mais puis, quand vous êtes devenu un peu penseur, disons, à 14 ans, à 15 ans, vous vous posez des questions. Vous ne pouvez pas donc toujours comprendre qu'il y a une matière pensante qui a commencé à se développer elle-même, et d'ici, vous êtes arrivé au monde.
Si je comprends bien, donc, vous avez connu un cheminement, vous êtes passé d'un certain athéisme à une foi.
Mais bien sûr, j'étais athée complètement, je suis croyante maintenant, parce que tout le monde est athée, si vous voulez, parce que mon fils, quand il avait 4 ans, il est arrivé, il m'a dit, bon, je comprends très bien que Lénine, c'est un dieu, que Lénine est maintenant aux cieux, cette idée vient, parce qu'on dit toujours que Lénine est vivant. Mmh. Comme il a entendu à la maison qu'il y a Dieu qui est vivant, alors il a eu cette idée qu'il y a deux dieux. Et ce petit bonhomme de 4 ans, il m'a posé une telle question, il m'a dit que la chose qui m'intéresse, est-ce que Lénine et Dieu ont partagé d'une manière égale le ciel? Parce que l'idée de l'égalité était aussi programmée et mise dans sa tête. Mm-hmm. Voilà. Alors, on ne peut pas, vous comprenez, quand on commence à penser, tous les enfants du monde, ils pensent de toute notre planète. Alors, ils voient que c'est fou, qu'il y a donc quelqu'un, il y a un créateur qui a fait tout ce monde.
Vous avez décidé de quitter l'Union soviétique. Est-ce que vous le regrettez?
Non, je ne regrette pas. Je regrette beaucoup mes amis. Mes relations, c'est la chose qui ne se trouve pas facilement. C'est la chose qu'on ne peut pas peut-être même déjà récupérer, parce que les vrais amis, l'amitié, c'est pas facile à la créer à mon âge. Mais je ne regrette pas. Alors, premièrement, j'ai quitté l'Union soviétique. Pas pour une vie, disons, du luxe, que j'avais très bien chez moi, dans ces conditions, si vous voulez, en Union soviétique. J'avais un appartement isolé, ce qui est déjà, pas maintenant, pas tellement, mais assez rare, oui. J'avais un poste de professeur de l'université, ce que je n'ai jamais eu ici, en Occident. J'avais des relations, tout ça. Alors, c'est pas pour une vie. Je suis arrivée en Occident parce que c'était de mon devoir d'aider à mon mari de développer ses idées et de les faire publier. Alors, je me suis consacrée, toute ma vie, tout le reste de ma vie pour lui donner la possibilité de le faire. Et Je pense qu'il ne faut jamais regretter ces choses-là, parce que si ces idées peuvent servir pour se débarrasser d'un régime totalitaire, alors je pense que c'est déjà bien.
Vous ne pensez pas qu'il a été préférable de mener cette lutte à l'intérieur de l'Union soviétique ?
Non, moi je ne pense pas, parce que c'est pas possible, si vous voulez, c'est pas possible de répandre les idées dans une société si fermée et si mouchardée. Alors, il y a un facteur d'une audience, si vous voulez. Il y a toujours, il faut se demander où on peut être plus utile. Alors, il y a un moment quand on se dit que, on est assez fait, peut-être, dans les possibilités, on ne peut plus, on est bloqué, il faut avoir une issue, et il faut peut-être continuer dans les autres conditions pour être plus utile. Parce que
est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir quand même échoué une partie de votre vie ?
Échoué ?
Oui.
Oui, moi, j'ai préféré, peut-être si je réponds comme un enfant, je préférais d'être né dans une société libre et de ne pas être 50 ans sans liberté. Parce que moi, j'ai quitté l'Union soviétique quand j'avais 50 ans. Alors, c'est un demi-siècle que j'étais sans liberté, sans la possibilité de parler à haute voix, d'être même dans mon appartement, tout à fait libre, de faire des actes libres, de ne pas donner, de ne pas expliquer à ma concierge où je dois aller, etc.
Qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans votre vie ? Vos idées ?
Non, premièrement, moi, à part des idées, je suis encore une femme. Alors, vie comptait toujours pour moi, être femme et mère. Alors, je pense que ça compte beaucoup d'être... moi, je suis un peu d'une formation ancienne, si vous voulez. Alors, je n'admets pas des idées complètement féministes. Pour moi, être une femme, c'est pas seulement avoir, la possibilité d'être complètement indépendante. Moi, je ne veux pas de cette indépendance parce que, pour moi, c'est mon devoir féminin, mon devoir maternel. C'est de faire de bonnes choses, si je le peux seulement, à mon mari, à mon fils.
Issa Panine, je vous remercie.
Issa Panine collabore avec son mari Dimitri à la publication d'une revue, Le Choix, où eux-mêmes et leurs amis expriment leurs opinions sur les conceptions philosophiques et politiques qui prévalent en URSS. On peut s'abonner à cette revue à l'adresse suivante, Le Choix, boîte postale 75 75 762 Paris.